Bien, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour la reprise de ce cours, la suite de ce feuilleton interminable, puisque ça doit être la 10e année que je le fais ici. C'est probablement la dernière année, ou peut-être on en fera encore un petit morceau l'année prochaine, mais enfin il n'y en aura pas 2 ans sur ce feuilleton, puisque nous arrivons à ce qui est appelé, comme intitulé cette année, l'échec du processus de paix. Nous sommes là vraiment maintenant dans l'histoire immédiate, ce qui implique des techniques particulières d'approche, compte tenu que beaucoup d'informations sont encore indisponibles. Et donc, ce cours s'alimente en permanence de ressources prises à la presse de l'époque, dans les journaux de l'époque. Dieu merci, nous entrons aussi dans une période où l'Internet commence d'exister, ce qui a permis des meilleures collectes d'informations. Les autres sources d'information étant constituées essentiellement, comme d'habitude, par les mémorialistes des différents camps, par les controverses, étant donné l'échec du processus de paix a alimenté évidemment considérablement les controverses, les travaux du journalisme d'investigation, qui est une source extrêmement utile, et plusieurs journalistes d'investigation ont bien travaillé sur ces sujets, et évidemment, mais pour une dimension plus sociale, les travaux des sciences sociales en économie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, etc. Mais il faut être clair que dans ce cadre d'histoire immédiate, dans la perspective qui nous intéresse ici, ce sera surtout essentiellement de l'histoire politique et diplomatique. Et le simple travail de reconstituer l'enchaînement chronologique des événements est en soi absolument considérable, d'autant plus que la mémoire de chacun a tendance à confondre les événements à quelques mois de distance. Or, évidemment, les relations chronologiques sont ici absolument essentielles pour comprendre la logique des événements. Donc, ce sera franchement de l'histoire à l'ancienne, bien politique, qui va nous concerner cette année, avec un projet de restitution, tout simplement, de l'enchaînement des événements. D'autres générations d'historiens passeront ensuite et pourront approfondir sur tel ou telle thématique particulière. Alors, je vous avais laissé l'année dernière sur l'échec du gouvernement Pérez et l'élection, enfin la victoire aux élections de la droite israélienne dirigée par Benjamin Netanyahou. Donc, vous voyez qu'on est franchement dans l'histoire contemporaine ou immédiate, puisque nous avons toujours M. Netanyahou comme Premier ministre en Israël, même si, évidemment, il y a eu des interruptions par rapport à notre sujet. Si Netanyahou s'est présenté comme un homme nouveau dans la politique israélienne, sa famille est étroitement associée à l'histoire du mouvement sioniste et en particulier de la droite radicale du mouvement sioniste. Son grand-père était un rabbin de l'Empire russe, un des rares à avoir s'être engagé très activement du côté du sionisme à l'époque tsariste, alors que la très grande majorité des rabbins étaient hostiles au sionisme, considéré comme un mouvement messianiste dangereux pour le judaïsme. Son fils, Benzion, a hébraïsé le nom de la famille en Netanyahou, don de Dieu en hébreu, et a fait ses études à l'université hébraïque de Jérusalem. Il fait partie de la fraction la plus radicale du mouvement révisionniste, sioniste, et devient pendant 2 ans, de 1938 à 1940, le secrétaire du chef de la droite israélienne, enfin sioniste, Jabotinsky, lors de l'exil de ce dernier aux États-Unis. Ensuite, il poursuit ses études toujours aux États-Unis, tout en étant le représentant du mouvement révisionniste dans la grande démocratie américaine. Considérant que l'administration Roosevelt ne fait rien pour sauver les Juifs d'Europe, Benzion a fait campagne auprès du Parti républicain, pourtant beaucoup plus xénophobe que le Parti démocrate, mais son but n'était pas d'ouvrir les États-Unis à l'immigration juive, mais de forcer la Grande-Bretagne à rouvrir les portes de la Palestine. Après la création de l'État d'Israël, Benzion n'a pas trouvé de place dans les institutions universitaires israéliennes et est revenu aux États-Unis. Mais néanmoins, ses 3 enfants ont fait leur service militaire en Israël. L'aîné, Yonatan, puis Benjamin, le second, servent dans l'unité d'élite des Sarayet Matkal, c'est-à-dire les commandos de l'état-major. Benzion Netanyahu a fait une carrière académique aux États-Unis comme spécialiste d'études hébraïques médiévales. Il a été en particulier un historien des persécutions menées contre les Juifs par l'Inquisition espagnole. Il considère que l'histoire juive en diaspora n'est qu'une suite de persécutions et de massacres. Politiquement, il affirme à de nombreuses reprises que les Arabes sont les ennemis d'Israël et qu'il faut les expulser du territoire israélien. Ils ne connaissent que la force et ils ne feront jamais la paix. Après la mort de Yonatan Netanyahu, le héros d'Entebbé, en 1976, la famille est revenue s'installer en Israël. Il semble que Benjamin Netanyahu ait envisagé primitivement une carrière aux États-Unis, dont il connaît parfaitement la langue et la culture. Il aurait pris ou envisagé de prendre la nationalité américaine. Le sujet reste controversé. Il est évidemment profondément marqué par la vigoureuse personnalité de son père, qui vivra jusqu'à l'âge de 102 ans, puisque Benzion est mort le 30 avril 2012, donc à une date tout à fait récente. Benjamin travaille d'abord dans l'industrie privée et s'occupe du Yonatan Institute for the Study of Terrorism, dédié à la mémoire de son frère. Ce think tank est formellement non gouvernemental, mais en fait est étroitement lié à la classe politique israélienne. Son conseil d'administration a réuni des personnalités importantes, aussi bien de la gauche que de la droite, Golda Meir, Moshe Dayan, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Ezer Weizmann, Menachem Begin, Ariel Sharon ont siégé au conseil d'administration de l'Institut. L'activité majeure a été la tenue en juillet 1979 d'une conférence à Jérusalem sur le terrorisme international. On y trouve des reliquats des guerres anticoloniales, comme Jacques Soustelle, qui met dans le même sac le FLN algérien, l'OLP, ou les guérillas en Rhodésie, mais surtout un étalage de représentants liés plus ou moins au mouvement néoconservateur américain, comme Henry Jackson, le sénateur, Richard Pipes, Norman Podhoretz, et des experts plus ou moins autoproclamés du terrorisme. Des personnalités comme George Bush, le père, y participent. Dans l'histoire de l'antiterrorisme, cette conférence est considérée comme un moment essentiel où tout un nouveau discours a été produit sur le terrorisme, en tout cas dans le monde occidental. Il faut bien comprendre que si le terrorisme existe depuis des siècles, l'antiterrorisme, par définition, existe aussi, mais que, par exemple, dans l'armée américaine, la perspective essentielle à l'issue de la guerre du Vietnam avait été les doctrines de contre-insurrection. Et que d'ailleurs, les militaires américains s'étaient inspirés des expériences françaises en Algérie dans les doctrines de la guerre révolutionnaire et de la contre-insurrection. Or, le terrorisme moderne, si on peut dire, n'entre pas dans la grille de la contre-insurrection. Et c'est à la fin des années 70 que se met en place un nouveau discours qui change les cadres de référence de la pensée anti-terrorisme, en particulier aux États-Unis. Le terrorisme est maintenant défini tout autant comme un mouvement qu'une tactique. C'est une menace visant directement la civilisation, la démocratie, l'Occident, et derrière le terrorisme, il y a évidemment l'Union soviétique. Ceux qui nient cette réalité sont les dupes de la désinformation menée par Moscou. On n'a pas à s'intéresser aux causes qui suscitent le terrorisme et aux projets politiques qu'il défend. Le terrorisme est avant tout l'expression de la barbarie. Et la formule est forte, la cause du terrorisme est le terrorisme. Créer un État palestinien serait donner au terrorisme international des moyens sans commune mesure avec ceux dont il dispose maintenant. Edward Teller, le père de la bombe hydrogène américaine, a adressé au Congrès un document sur le risque nucléaire. Il est hautement improbable que des terroristes puissent construire une bombe nucléaire dans un garage, mais un État disposant de l'armement nucléaire pourrait leur en confier secrètement une, échappant aussi à la logique de la dissuasion réciproque. C'était là une thématique qui avait déjà existé lors de la guerre froide, les services de renseignement américains s'interrogeant sur le risque de voir les Soviétiques introduire une petite arme nucléaire sur le sol américain. On avait alors jugé cela impossible du fait des logiques de dissuasion. Dans les années 1970, il y avait eu quelques affaires de chantage nucléaire, mais de nature crapuleuse et non politique. La vision conspiratrice accusant l'Union soviétique est liée à la confusion entre la solidarité liant les différents mouvements anti-impérialistes des années 1960-1970 et l'utilisation réelle par le KGB dans le cadre de la guerre froide de certaines organisations pratiquant un terrorisme mercenaire, entre autres, par exemple, le groupe Carlos, qui était ou même Abu Nidal, mais enfin surtout Carlos, qui était vraiment du terrorisme mercenaire. Et qui en effet disposait de soutien technique dans l'Europe de l'Est, dominée par les Soviétiques. Alors, là, je fais une petite coupure pour rappeler que ce schéma de l'antiterrorisme va durer jusqu'au début des années 2000, jusqu'au moment de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, où les militaires américains vont se retrouver complètement démunis sur le plan doctrinal de la façon de lutter contre l'insurrection irakienne et vont revenir au discours post-Vietnam de la contre-insurrection. Et ils vont retrouver les auteurs qu'ils avaient pratiqués avant le tournant de la fin des années 1970, la boucle étant ainsi bouclée dans l'histoire de l'antiterrorisme. Alors, les années suivantes, Benjamin Netanyahu a continué à se poser comme expert de terrorisme dans des ouvrages sans grande originalité, reprenant la thématique générale des intervenants habituels sur les sujets, les usual suspects, ou le gang, comme ou la mafia, puisqu'il y a une savante étude américaine assez sardonique qui a montré qu'à peu près 70% des intervenants dans les colloques antiterroristes étaient toujours les mêmes et ne faisaient que se répéter. Et que donc ce qui comptait, ce n'était pas le contenu des discours, mais le fait de l'imposer de façon systématique. Il définit le terrorisme comme étant une attaque délibérée et systématique contre des civils pour inspirer la peur pour des fins politiques. S'il reconnaît l'existence d'un terrorisme endogène, domestique, par exemple dans les milieux de la droite paranoïaque et raciste américaine, il s'attache à démontrer l'existence d'un terrorisme international, jadis soutenu par l'Union soviétique, allié avec les pays arabes, et maintenant représenté par les mouvements djihadistes musulmans. Il faut lutter par tous les moyens et n'accepter aucune excuse au terrorisme. Ces ouvrages montrent l'habituelle incohérence logique de cette littérature, puisqu'en particulier, on mentionne comme acte terroriste les attentats contre la force multinationale à Beyrouth qui ont tué des militaires français et américains qui n'étaient certainement pas des civils, donc ça ne correspond pas à la définition posée tout à l'heure que les actes de terroristes visent des civils. Pour lui, l'Iran et la Hezbollah et leurs organisations satellites ont remplacé le communisme et le fascisme pan-arabe comme force motrice derrière le terrorisme international. Après la défaite soviétique en Afghanistan, une internationale terroriste sunnite s'est constituée. Israël et l'Occident ont des ennemis communs. Les soldats de l'islam militant et du pan-arabisme ne naïssent pas l'Occident du fait d'Israël. Ils détestent Israël du fait de l'Occident. Ils contaminent les minorités musulmanes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. L'enclave de Gaza créée par les accords d'Oslo est devenue une base pour le terrorisme. Et enfin, Netanyahou prévient du risque de voir l'Iran se doter d'un armement nucléaire qu'il pourrait livrer à des groupes terroristes qui l'utiliseraient contre New York ou Israël. On en a une vision fondée sur la peur, en particulier, qui est à la fois l'héritage familial de son père, qui est le discours que l'histoire du judaïsme est une histoire des persécutions et du danger permanent, et la définition de l'ennemi. Alors, évidemment, le paradoxe historique, c'est bien dans les années 1990 que se développe le djihad international avec Ben Laden. mais que jamais le djihad international ne visera Israël. Il a toujours visé des objectifs soit locaux, soit occidentaux, essentiellement américains ou européens, mais on n'a jamais pu attribuer à Al-Qaïda une action contre Israël, ceci pour d'autres raisons que le fait que Al-Qaïda ou le djihad international aurait une certaine affection pour Israël. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant de se lancer dans une carrière à temps plein politique, il a entré dans la diplomatie israélienne où il s'est montré un remarquable propagandiste auprès de l'opinion publique américaine. Il parle l'américain mieux qu'un américain et il impressionne énormément l'opinion publique, surtout de la droite américaine. Il a été ambassadeur à l'ONU de 1984 à 1988, avant d'entrer dans la carrière politique au Likoud. Et il monte rapidement à l'intérieur de la hiérarchie du parti, grâce à son habileté manœuvrière et de ses talents de communicateur. De fait, il prend l'ascendance sur ce qu'on appelle les princes du Likoud, c'est-à-dire les fils des fondateurs du mouvement. En 1993, il expose sa vision du monde dans un livre consacré à la place d'Israël parmi les nations. C'est une synthèse d'un siècle de propagande sioniste avec quelques curiosités, comme l'affirmation que les Juifs étaient encore majoritaires en Palestine lors de la conquête arabe du 7e siècle. Les Arabes ont alors procédé à une politique de colonisation systématique en créant des colonies armées, en expropriant les terres et les biens juifs. Ainsi, ce ne sont pas les Juifs qui ont usurpé la terre des Arabes, mais les Arabes qui ont usurpé la terre des Juifs. On est évidemment là dans un plein délire imaginatif d'un propagandiste qui projette sur le 7e siècle les réalités du 20e. On sait qu'à l'époque byzantine, il restait encore des populations juives agraires en Galilée, mais non dans le reste de la Palestine, et qu'elles se sont ensuite converties à l'islam. Les premiers sionistes comme Ben Gurion s'étaient d'ailleurs posé au début du XXe siècle la question de savoir si l'on ne pouvait pas ramener leurs lointains descendants arabes à la religion de leurs ancêtres supposés. Au moins, ils avaient une meilleure vision historique en 1910 qu'en 1990. Il faut rappeler aussi que les Romains, puis les Byzantins, avaient interdit toute présence juive à Jérusalem et que ce sont les musulmans qui ont autorisé les juifs à revenir dans la ville sainte après la conquête arabe. Donc, ceci est un correctif historique au texte de Netanyahou. Ce court-circuit historique permet de réduire de 20 à 12 le nombre de siècles où les Juifs n'auraient pas été majoritaires en Palestine. Le reste du discours identifie le sionisme à la reconquista espagnole en Espagne, puis ensuite il y a le discours habituel de propagande de la diplomatie israélienne. Israël n'est pas la cause des problèmes du Moyen-Orient. Il n'y a pas de centralité palestinienne. La vraie origine du conflit est le refus arabe de reconnaître Israël à l'intérieur de n'importe quelle frontière. La Jordanie est le vrai État palestinien. Il ne peut y avoir un second. La Judée et la Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, sont les Sudètes d'Israël. Rappelle donc cette partie de la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres qui était peuplée d'Allemands, qui avait causé les revendications du Troisième Reich sur, à la conférence de Munich. Donc, quand les Arabes appellent à l'autodétermination des Palestiniens, ils ne font que reprendre le discours d'Hitler par rapport à la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, ce n'est pas le seul emprunt que les Arabes ont fait à Hitler, poursuit Netanyahou. Les Juifs ont le droit historique de vivre dans la terre de leurs ancêtres, en faire une terre vide de Juifs, et là encore, une poursuite du nazisme. Il ne peut y avoir de vraie paix qu'entre des démocraties. Or, il n'existe aucune démocratie dans les pays arabes. Là, on est dans une thématique qui est celle des néoconservateurs américains de la période qui ont l'idée bizarre de croire qu'une démocratie ne fait pas la guerre à une autre démocratie. Donc, ça avait été d'ailleurs simplifié par l'éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, qui disait « Un pays qui a un McDonald's ne fait pas la guerre à un pays qui a un McDonald's ». Ce qui est d'ailleurs faux, historiquement parlant, puisqu'il y a au moins un McDonald's à Beyrouth et un autre à Tel Aviv. Dans le cas précis, il suffit de rappeler, puisque nous allons célébrer le centenaire, que les pays d'Europe de l'Ouest qui ont fait la Première Guerre mondiale étaient tous, sinon des démocraties, en tout cas des États dotés d'un régime libéral, représentatif et constitutionnel, sauf la Russie tsariste. Donc, prétendre que des démocraties ne font pas la guerre aux démocraties, c'est ignorer tout simplement la Première Guerre mondiale. Fin de l'excursus. La sécurité d'Israël implique le contrôle de la Judée-Samarie pour lui donner le temps nécessaire pour pouvoir faire face à une invasion arabe venant de l'autre côté du Jourdain. C'est le mur, donc la vallée du Jourdain est le mur qui protège l'État hébreu. De même, les ressources en eau de cette région sont vitales pour Israël. Il n'y a pas de menace démographique arabe. L'immigration juive et l'immigration arabe compensent la grande natalité arabe. Là, c'est pour contrer l'argument démographique qui est que si Israël continue de contrôler les territoires, il risque de se trouver en situation de minorité démographique. La paix durable ne peut se faire que par la reconnaissance par les Arabes de la légitimité d'Israël. La sécurité implique le maintien du contrôle de la Judée, Samarie et du Golan, mais il faut en même temps limiter la taille de la population arabe sous souveraineté israélienne. La bande de Gaza ne constitue pas un risque extraordinaire pour la sécurité israélienne. On peut lui accorder la plus grande autonomie possible, tout en y conservant des colonies juives. En ce qui concerne la Judée-Samarie, les Arabes doivent pouvoir gérer leurs affaires locales. Cette autonomie ne peut s'appliquer qu'aux centres urbains et non aux régions de faible peuplement. Netanyahou propose donc la constitution de 4 comtés, ou cantons, si vous voulez, counties en arabe, Jenin, Naplouse, Ramallah, et Hébron, soit moins du cinquième du territoire de la Cisjordanie. Les ressources naturelles resteraient sous contrôle israélien et les Arabes pourraient bâtir une démocratie qui serait exemplaire pour le reste du monde arabe. Là, on voit mal comment, mais enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Au bout de 20 ans de paix, si les Arabes se montrent loyaux, alors on pourrait leur offrir la citoyenneté israélienne. Dans son essence, la vision d'un règlement final selon Netanyahou n'est pas finalement si opposée à celle des travaillistes. La nature de l'autonomie palestinienne envisagée diffère peu. La grande différence réside dans l'ampleur du territoire à accorder aux Palestiniens. Dans la ligne du plan Alon, la perspective allait jusqu'aux deux tiers de la Cisjordanie. Quant à la continuité territoriale palestinienne, elle est déjà sérieusement remise en cause par les progrès de la colonisation juive, en particulier sous les gouvernements de Rabin et de Peres. Le consensus est complet en ce qui concerne le refus d'une division de Jérusalem entre les deux peuples. Dans le camp de la droite israélienne, cette vision était déjà considérée comme trop libérale. Les plus radicaux se veulent partisans de l'annexion totale et de l'expulsion éventuelle de la population palestinienne, au moins celle de Cisjordanie. Or, Netanyahou a besoin de ces extrémistes pour disposer d'une majorité parlementaire. En effet, l'élection de Netanyahou est liée à la modification des règles politiques en Israël, qui a amené à la distinction entre l'élection du Premier ministre par un vote direct des électeurs, parallèle à l'élection des députés à la proportionnelle. L'idée était que, grâce à ce mécanisme, le Premier ministre étant élu directement, il disposerait d'une autorité politique équivalente à celle d'un président dans un pays comme la France ou les États-Unis, et donc pourrait construire une majorité parlementaire dans son pays. En fait, le mécanisme a complètement échoué. Ce sera d'ailleurs tout le problème de Netanyahou, puis ensuite d'Ehud Barak, de l'échec de cette procédure dite présidentielle en Israël. Parce que les gens votent une première fois pour le Premier ministre, mais du coup, ils ne votent pas pour les partis les plus importants, mais ils votent pour ceux dont ils sont les plus proches. Donc, le mécanisme du double vote a accéléré l'émiettement du système politique israélien. En gros, on vote national pour le Premier ministre et communautaire pour les députés. Le Parti travailliste a perdu 10 sièges, mais en conserve 34, ce qui fait de lui le premier parti du pays. La coalition des droites nationalistes en a 31, avec une perte équivalente en sièges. Les gagnants sont les religieux, avec 25 sièges, dont 9 pour le parti séfarade. Chasse, l'ultra-droite colonialiste en a 13 et le parti des nouveaux immigrants russes en a 7. À gauche, le Meretz conserve 9 sièges. Meretz, donc, c'est la gauche qu'on peut qualifier de plutôt camp de la paix, mais en même temps très laïcisante et très hostile aux religieux. Tandis que les deux partis arabes progresse à 9 sièges, ce qui représente 70% du vote arabe, 30% du vote arabe allant à des partis dits sionistes ou juifs. Netanyahou est largement majoritaire dans l'électorat juif, ce qui explique sa victoire dans l'élection au poste de Premier ministre, puisque le léger déficit du vote arabe en faveur de Peres n'était pas suffisant pour expliquer sa défaite. Netanyahou a eu 32 000 voix d'avance et il y a eu 12 000 votes blancs dans les localités arabes. Donc, on présente souvent la défaite de Peres comme une conséquence de la défection de l'électorat arabe à cause de l'offensive contre le Liban. Mais il faut tempérer, les chiffres montrent que de toute façon, Netanyahou a gagné, mais c'est parce qu'il était majoritaire dans l'électorat juif. Alors, un nouvel élu, évidemment, multiplie les déclarations rassurantes tout en refusant de prendre des engagements fermes. Il a condamné le processus de paix, mais se déclare prêt à s'y conformer. Son élection a suscité de fortes inquiétudes dans la communauté dite internationale. et Arafat, qui a tout misé sur les travaillistes, est en état de choc. Au moment même où les résultats donnaient Netanyahou comme vainqueur, une opération du Hezbollah faisait 4 morts dans les rangs de l'armée israélienne au Liban Sud. Il n'est pas question de représailles tant que le nouveau gouvernement n'est pas formé, et sans lui, on ne peut pas avancer dans la question du dossier du comité de surveillance des actions des différents belligérants au Liban. Le programme soumis par le Likoud à ses partenaires éventuels de coalition reprend la formule des 3 noms. Non à un État palestinien, non à toute concession sur le plateau du Golan, non à la division de Jérusalem. Il prévoit également la poursuite de la colonisation et stipule que la vallée du Jourdain restera la frontière orientale de l'État hébreu, quelle que soit l'issue des négociations de paix. Il promet d'accorder tous les fonds nécessaires à la municipalité de Jérusalem afin de rendre impossible un nouveau partage de la ville sainte. Enfin, il n'y aura pas de nouvel accord avec les Palestiniens si ces derniers ne s'engagent pas à prévenir les actes de violence et à extrader leurs auteurs. Tout en affirmant la volonté de poursuivre le processus de paix, il n'est pas question de changer le statu quo territorial. Netanyahou, qui a condamné les accords d'Oslo, peut d'ailleurs se rendre compte que les 4 cantons qu'il a proposés correspondent assez bien au découpage des territoires palestiniens en zones A et B. Mais une telle perspective paraît déjà trop libérale pour les plus radicaux de son parti. Les religieux reprennent leurs revendications habituelles en matière de subvention à leurs institutions, de respect du Shabbat et d'extension de la séparation des sexes, ou des genres, si vous voulez les termes plus modernes. Pour les contraindre à se modérer, Netanyahou laisse planer la menace d'un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes. Les États arabes se concertent. On a envoyé Moubarak, Hafez al-Assad et le prince héritier Abdallah d'Arabie Saoudite et appellent à la tenue d'un sommet arabe pour faire face à la nouvelle ligne politique israélienne. Netanyahou dépêche des émissaires auprès des chefs d'État arabes partenaires d'Israël pour les apaiser, mais refuse tout contact avec Arafat. Le 10 juin 1996, une nouvelle embuscade du Hezbollah fait 5 morts et 8 blessés israéliens au Liban Sud. En représailles, Israël bombarde massivement les régions limitrophes de la zone de sécurité, tuant un soldat libanais. Le Hezbollah s'abstient de répondre par des tirs sur la Galilée. Le même jour, 2 colons juifs sont tués près de Jérusalem. Puis, le 16 juin, un policier israélien en Cisjordanie est tué. Alors, Netanyahou voudrait imposer une fonction plus présidentielle au poste de Premier ministre grâce à l'élection directe, mais doit composer avec les grandes personnalités de son propre parti et avec les exigences de ses partenaires de la coalition. La formation du nouveau gouvernement est ainsi laborieuse avec une succession de coups de théâtre. Le programme de gouvernement est défini le 16 juin 1996. Dans son préambule, il stipule que le gouvernement est convaincu du droit éternel du peuple juif à Eretz Israël, c'est-à-dire de la Méditerranée au Jourdain. Le gouvernement veut élargir le cercle de la paix avec ses voisins tout en veillant à la sécurité de l'État et de ses habitants. Le gouvernement négociera avec l'autorité palestinienne dans le but de parvenir à un accord définitif à condition que les Palestiniens respectent scrupuleusement leurs engagements. Le gouvernement présentera aux Palestiniens un arrangement leur permettant de vivre librement dans le cadre d'un régime d'autonomie. Le gouvernement s'opposera à la création d'un État palestinien indépendant ou à toute autre souveraineté étrangère à l'ouest du Jourdain. Tout accord politique devra garantir le maintien et le renforcement de la colonisation juive et garantir son lien avec l'État d'Israël. Le gouvernement considère que la colonisation dans le Golan, dans la vallée du Jourdain, en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza, est une tâche d'importance nationale. Le gouvernement se réserve le droit d'utiliser en tout lieu l'armée et d'autres forces de sécurité contre le terrorisme en fonction des nécessités. Ce qui veut dire que le territoire palestinien autonome est ouvert aux actions de l'armée israélienne. Le gouvernement considère que le plateau du Golan est une région vitale pour la sécurité d'Israël et pour la préservation de ses ressources en eau. Tout accord avec la Syrie devra reposer sur le maintien de la souveraineté israélienne dans le Golan. Le gouvernement agira en vue d'éliminer les menaces planant sur la sécurité de la population dans la région nord d'Israël, ça c'est avec la région avec le Liban sud. Le gouvernement œuvrera afin que Jérusalem reste la capitale unifiée et indivisible d'Israël et empêchera toute activité portant à ce principe. Le reste du programme concerne les revendications des partis religieux. Et on ne mentionne pas les accords d'Oslo dans le programme. Le 18 juin, le nouveau gouvernement est investi par la Knesset par 62 voix contre 50. David Levy, donc le représentant de la droite séfarade, reçoit les affaires étrangères, Ariel Sharon, un super ministère de l'infrastructure nationale, Itzhak Mordechai, un ancien général de la défense, il est réputé pour être partisan des méthodes dures. Une des premières décisions est la constitution d'un Conseil de sécurité nationale, mesure préconisée depuis longtemps afin de mieux coordonner les différents acteurs de la politique étrangère. Cela limite d'autant les compétences de David Levy. Et puis, ça revient toujours à un problème récurrent dans l'administration israélienne. L'essentiel de l'expertise en matière de sécurité est fourni par le ministère de la Défense. Et régulièrement, les autres acteurs considèrent que les militaires ont une certaine vision des choses et que d'autres visions devraient être envisagées. Et en particulier, le ministère des Affaires étrangères ne dispose pas des moyens d'expertise et d'analyse dont dispose le ministère de la Défense. Donc la revendication était de créer une instance séparée et interministérielle pour les matières de sécurité. Mais en fait, ça n'a jamais correctement fonctionner. Et encore de nos jours, l'essentiel de l'expertise revient toujours au ministère de la Défense d'Israël. Le sommet arabe, là vous avez une caricature arabe sur Netanyahou et les Arabes. Donc, le sommet arabe qui se tient au Caire du 22-23 juin 1996 voit une forte opposition entre la Jordanie et la Syrie à propos du traité de paix jordano-israélien. L'Irak est exclu des invitations. La Syrie accuse la Turquie d'avoir organisé des attentats sur son territoire. L'autre sujet brûlant est l'Iran, accusé de fomenter des troubles au Bahreïn. L'Égypte joue un rôle majeur. Le communiqué final donne les positions arabes sur le processus de paix. Donc, longue citation, désolé. Conscients de leur responsabilité nationale, les dirigeants arabes affirment qu'une paix globale et juste au Proche-Orient nécessite le retrait d'Israël de tous les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem arabe, et l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem arabe pour capitale, la cause palestinienne étant l'essence du conflit israélo-arabe. Vous voyez la réponse des discours. Le retrait total d'Israël du Golan syrien jusqu'à la ligne du 4 juin 1967, le retrait israélien total et sans condition du secteur occidental de la plaine de la Beka et du Liban Sud jusqu'à la frontière internationalement reconnue. Tout ceci en application des résolutions de l'ONU 242, 338 et 425 et du principe de l'échange de la terre contre la paix. Sur ces bases, nous appelons à la reprise sans retard des négociations sur tous les volets. L'attachement des pays arabes à l'aboutissement une paix juste et globale représente un objectif et un choix stratégique qui doivent se réaliser conformément à la légalité internationale et exigent en contrepartie un engagement similaire d'Israël qu'il doit confirmer d'une manière sérieuse et sans détour. Le processus de paix doit aboutir au recouvrement des droits et la récupération des territoires occupés, garantir une sécurité équilibrée et équitable pour tous les pays de la région, conformément aux principes agréés à la conférence de Madrid, notamment celui de l'échange de la terre contre la paix et aux lettres d'assurance données aux parties. Les dirigeants affirment que toute transgression par Israël de ces principes et des bases avec lesquelles a été édifié le processus de paix, toute renonciation aux engagements et aux obligations convenues ou toute tergiversation dans leur application provoquerait un revers pour le processus de paix avec tous les dangers qui en résulteraient, replongeant ainsi la région dans la spirale de la tension et contraignant tous les États arabes à reconsidérer les démarches entreprises à l'égard d'Israël dans le cadre du processus de paix. Le gouvernement israélien en assumera seul l'entière responsabilité. Et puis on continue sur l'illégalité de la colonisation juive dans les territoires occupés, qui est donc nul et non avenu, de même pour le Golan syrien, pour Jérusalem. Et on appelle les deux coparins du processus de paix, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, l'Union européenne, le Japon, les non-alignés et les autres États concernés, l'ONU et les institutions internationales, à œuvrer pour garantir le respect par Israël des bases du processus de paix. La réaction du gouvernement Netanyahou est de rejeter les diktats, plutôt rappelé terme allemand pour signifier la paix de Versailles, des États arabes. Lors de la visite du secrétaire d'État américain Warren Christopher au Proche-Orient le 25 juin, on fait payer à l'administration Clinton son soutien à Shimon Peres. On se contente d'entendre les positions américaines sur le processus de paix en réservant à la prochaine visite de Netanyahou à Washington l'expression de la ligne politique israélienne. Quant à une rencontre avec Arafat, le premier ministre israélien se contente de dire que si c'est essentiel pour la sécurité d'Israël, il examinera cette possibilité. Diplomate Christopher souligne que la sécurité seule sans la paix n'est pas possible. Le 26 juin, trois soldats israéliens sont tués par un commando palestinien à la frontière jordanienne. L'affaire est revendiquée par le Fatah Intifada d'Abu Moussa, basé à Damas, un de ces groupuscules palestiniens inféodés à la Syrie. Netanyahou met en cause le régime syrien. Je cite, « Il y a plusieurs foyers de terrorisme au Proche-Orient, dont le plus important est l'Iran. » Mais malheureusement, la Syrie anime le terrorisme contre Israël en se servant des territoires libanais et jordaniens. Le premier ministre israélien tente de profiter du récent attentat à Dahan, en Arabie Saoudite, où 19 soldats américains ont été tués, pour transformer tous les problèmes politiques en questions de terrorisme. Il s'ensuit une escalade verbale, la presse syrienne comparant Netanyahou à Hitler. L'enquête américaine sur l'attentat de Dahran conclura à la responsabilité du Hezbollah saoudien, un groupe chiite sous influence iranienne. Néanmoins, Ben Laden, qui s'est récemment installé en Afghanistan, en a fait l'éloge sans revendiquer l'opération. Un peu plus tard, Ben Laden appellera au djihad contre les États-Unis qui occupent la péninsule arabique, mais à l'époque, tout ça ne fait pas grand bruit. Le conseiller de Netanyahou, Dor Gold, a été chargé du contact avec les Palestiniens par le biais de l'Arsen, donc l'ancien négociateur d'Oslo devenu représentant de l'ONU. Pour le processus de paix. Il rencontre Saïd Erekat et Abu Mazen. Puis, le 29, il est reçu par Arafat et transmet l'assurance de la poursuite du dialogue avec l'autorité palestinienne. Les deux parties échangent la liste des violations des accords conclus. une des premières revendications israéliennes est l'abrogation formelle des clauses litigieuses de la charte palestinienne, ce qui, pour les Palestiniens, n'a pas grand sens. C'est un document historique qui, pour eux, n'a pas de portée opératoire. Ce n'est pas l'évangile de l'ONP, ni son livre rouge chinois ou vert libyen. C'est l'insistance renouvelée par les Israéliens sur ce sujet qui a donné de l'importance à la charte pour les Palestiniens. La clôture des territoires palestiniens se poursuit avec à peine quelques adoucissements. Donc cette caricature arabe de l'époque sur la clôture avec déjà l'image du mur, bien qu'il n'existe pas encore de mur à l'époque. Au début de juillet 1996, la doctrine de Netanyahou semble claire. Il n'est pas question d'accepter le principe de territoire contre la paix, tout aussi bien pour les territoires palestiniens occupés que pour le Golan. L'abandon du Sinaï suffit pour déterminer l'ampleur du retrait prévu par la résolution 242. C'est sur cette position qu'il se rend pour une semaine aux États-Unis à partir du 9 juillet. Dans ses déclarations publiques, il marque à propos de ses voisins arabes que ceux qui sont du côté de la paix doivent faire preuve d'un engagement total dans la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons aller de l'avant sans réciprocité. Les Arabes devront s'adapter à cette réalité nouvelle et seront forcés de transiger. Sharon, au début juillet, a été confirmé comme ministre des Infrastructures nationales, ce qui lui donne les moyens d'intensifier la colonisation des territoires occupés, y compris au centre de la Cisjordanie et non pas dans ses marges, contrairement à la doctrine du plan Allon. Cela contraste avec les mesures d'austérité budgétaire prises par le nouveau gouvernement au détriment des dépenses sociales et de la solde des militaires. Les relations entre Netanyahou et Bill Clinton sont plutôt froides. Le premier lui reproche son engagement en faveur de Peres. Le second l'accuse d'intriguer avec la droite républicaine pour ruiner la diplomatie américaine au Proche-Orient. Faisant campagne pour sa réélection, le président des États-Unis ne peut se permettre une opposition frontale avec le premier ministre israélien. Réaliste, il prend acte de l'impossibilité de parvenir à un accord de paix avec la Syrie du fait du refus israélien de céder le Golan. Ce qu'il cherche à faire est de rétablir Arafat en position de partenaire. Le président de l'autorité palestinienne s'est montré coopératif dans la lutte contre le terrorisme et son successeur éventuel serait probablement un adversaire déterminé du processus de paix. Clinton compte sur Moubarak qui cherche à unifier les Arabes sur une position commune en faveur de la paix. Habilement, Netanyahou cherche à se démarquer de ces extrémistes comme Sharon qui veulent créer partout en Cisjordanie des colonies. Il montre son intention d'ouvrir une négociation sur le retrait israélien du Liban Sud, sans tenir compte, semble-t-il, du sort de l'armée du Liban Sud, donc la milice inféodée à Israël, mais à condition que Damas désarme le Hezbollah. En ce qui concerne la colonisation, il rappelle que sous le gouvernement travailliste, les colons en Cisjordanie étaient passés de 96 000 à 145 000. Je pense que personne ne s'attend à ce que nous fassions moins que le gouvernement travailliste. Le problème, ce n'est pas d'en faire moins, c'est que les travaillistes le faisaient silencieusement, tandis que la droite le fait publiquement. C'est ça la nuance. En ce qui concerne l'autorité palestinienne, il se déclare prêt à respecter les accords passés, mais exige la renégociation d'une partie d'entre eux, dont celui, toujours non appliqué, sur Hébron. Il parle d'un ton supérieur au président des États-Unis qui fera l'observation suivante à ses subordonnés. Il pense qu'il est la superpuissance et que nous sommes ici pour faire tout ce qu'il demande. Il existe une version nettement plus crue dans le texte américain avec deux fois ce qu'on appelle en américain le mot F. Mais je ne vous la citerai pas. Netanyahou, comme ce sera son habitude, parce qu'il l'a refait récemment encore, fait une prestation particulièrement bien accueillie devant le Congrès, qui l'applaudit à plusieurs plusieurs reprises. Il joue habilement de toutes les cordes sensibles, le terrorisme après l'attentat de Dahan, le danger nucléaire iranien, qui, je rappelle, on est toujours, l'Iran aura l'arme nucléaire dans 2 ans. C'est dit en 1996. Hein. La promotion de la démocratie représentée par Israël contre la dictature incarnée par la Syrie. Si la communauté juive américaine vote très majoritairement pour le Parti démocrate, étant plus à s'identifier aux travaillistes israéliens qu'au Likoud, la droite républicaine, en particulier le groupe très affluent des néoconservateurs, sont composés de fervents partisans du Likoud et de Netanyahou. Ce dernier, qui a passé de nombreuses années de sa vie aux États-Unis, s'est très bien joué des médias américains. Alors, il faut rappeler, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais il faut le rappeler régulièrement, qu'il faut faire la distinction entre la position moyenne de la communauté juive américaine, qui est beaucoup plus modérée sur le dossier Israël-Palestine, que la représentation de cette communauté par une série d'organisations qui sont, elles, beaucoup plus droitières que la communauté. Autrement dit, AIPAC, qui est le principal lobby pro-israélien, est nettement plus dur, faucon, comme on dit aux États-Unis, que ne l'est la majorité des Juifs américains. Mais le problème, c'est que ces communautés juives américaines n'ont pas d'autre expression politique que ces institutions. Et à chaque fois, encore récemment, avec G Street, on a tenté de développer des institutions représentatives plus modérées. Ça n'a pas vraiment pris racine. Hein, d'où le fait que, encore aujourd'hui, on peut dire que l'AIPAC est plus proche des républicains, alors que les juifs américains votent plutôt démocrates. C'est quelque chose qu'il faut bien saisir et qui permet de nuancer la réalité américaine. Alors, face à Moubarak, qui travaille à exprimer une position arabe unique, Netanyahou, en visite au Caire le 18 juillet 1987, jette en apparence du lest. Il multiplie les ambiguïtés d'expression. Nous nous sommes engagés à respecter les termes de référence de la conférence de Madrid. Cela a toujours été notre approche, pas de préconditions. Quant au principe « la terre contre la paix », il y a différentes interprétations et différents moyens de l'appliquer. Fin de citation. Pardon. Mais il marque une nette préférence pour la formule « la paix contre la paix ». Pour parvenir à une paix durable, nous devons tout d'abord poser les solutions de sécurité. Moubarak se déclare optimiste pour l'avenir. Il doit lui-même se rendre à Washington à la fin du mois afin de renégocier l'aide américaine à l'Égypte. Il sait que tant que la période électorale se poursuit aux États-Unis, il ne peut y avoir de confrontation entre l'administration Clinton et le gouvernement israélien. Nous ferons une pause de 5 minutes sur ce point.